L'heure du journal avec Emmanuel Gravé. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. Un feu d'artifice pour le 14 juillet sur la promenade des Anglais. C'est une première à Nice depuis l'attentat de 2016, soirée qui s'annonce évidemment très douloureuse. D'autant que la perspective d'un procès terroriste s'éloigne, il pourrait n'y avoir qu'une simple audience correctionnelle. Charlotte Piret va nous expliquer pourquoi. Le 14 juillet, sous très haute surveillance à Paris, avec notamment une mobilisation des gilets jaunes attendus. Gilets jaunes qui ont laissé un très mauvais souvenir aux Fouquettes. La brasserie rouvre demain pour son traditionnel brunch du 14 juillet après 4 mois de travaux. Dans ce journal aussi, la sécheresse qui fait baisser à vue d'œil un lac de Creuse, près de 300 espèces d'oiseaux menacées de se retrouver sans habitat. Et puis le Soudan, les révoltés qui commémorent aujourd'hui la répression du sit-in le 3 juin dernier.
Et à 7h50, on vous emmène sur la scène de l'Opéra Bastille. Elle était inaugurée, cette scène, il y a 30 ans, jour pour jour, et c'est une danseuse étoile qui vient nous en parler ce matin, Léonore Bollack. Elle nous parlera aussi des 350 ans de l'Opéra de Paris. Rendez-vous dans 20 minutes.
France Inter. Un feu d'artifice pour la fête nationale ce soir à Nice. C'est le tout premier depuis l'attentat de 2016. La vie de 86 personnes avait été fauchée sur la promenade des Anglais par un camion lancé à toute allure. C'est donc une soirée cathartique à venir pour une ville traumatisée par cette nuit d'horreur, alors que le procès à venir pourrait bien ne pas se tenir sous l'angle du terrorisme. Ça paraît incroyable. Et pourtant, pour les 8 personnes mises en examen dans ce dossier, le caractère terroriste n'est pas forcément établi. Le seul qui aurait pu être jugé pour ce motif, le conducteur du camion a été tué au volant le soir même. Charlotte Piret.
Le dossier de l'attentat de Nice est probablement le plus symptomatique de ce fossé qui existe parfois entre l'horreur des faits et la faiblesse des charges qui pèsent contre ceux qui sont encore là pour en répondre. Le juge d'instruction lui-même a d'ailleurs prévenu les victimes. Certaines charges de complicité ou de terrorisme auront du mal à tenir. Dernièrement, certains avocats de partie civile se sont même associés à une demande de démise en examen de celui qui avait pourtant un temps été présenté comme le mentor du terroriste. Mais si la justice considère que ce n'est pas parce qu'ils ont été en contact ou aidé le terroriste que les suspects sont eux-mêmes acquis aux thèses de l'État islamique, alors ce n'est pas un procès pour terrorisme devant une cour d'assises spéciale qui se profile, mais peut-être une audience en correctionnelle pour avoir simplement fourni des armes, par exemple. C'est cependant encore un peu tôt pour le dire. Le juge d'instruction doit notamment répondre à une demande de partie civile d'interroger celui qui a revendiqué l'attentat au nom du groupe État islamique et qui aurait, c'est une hypothèse, pu avoir aussi joué un rôle en amont. S'il a lieu, cet interrogatoire dans une prison kurde pourrait constituer l'un des derniers actes d'enquête avant un renvoi aux assises ou en correctionnel.
Explication de Charlotte Piret du service police-justice de France Inter.
Et pour ce 14 juillet, les conditions de sécurité ont été considérablement renforcées à Paris, Emmanuel.
Avec cette coïncidence d'événements qui met les forces de l'ordre en état d'alerte maximale, défilés et feux d'artifice, ça comme tous les ans. Mais cette année, il y aura aussi les supporters de l'équipe de foot d'Algérie qui disputent dimanche soir la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La célébration de sa victoire en quart jeudi dernier avait été émaillée de nombreux débordements et il faudra aussi compter avec les gilets jaunes qui appellent à se mobiliser aujourd'hui et demain surtout. Les gilets jaunes qui ont donné pendant des mois des cauchemars aux commerçants des Champs-Élysées, le Fouquet's notamment, vandalisé, incendié, pillé le 16 mars dernier. La brasserie rouvre au public demain après 4 mois de travaux. Impossible, Philippe Lefebvre, de ne pas assurer le traditionnel brunch du 14 juillet.
Dans la brasserie, ils sont quelques dizaines pour le déjeuner. Il ne s'agit pas de clients, mais de salariés du restaurant qui préparent depuis 10 jours la réouverture du Fouquet's, une brasserie qu'ils n'ont jamais véritablement quittée, explique Géraldine Dobé, la directrice générale.
Il y avait 110 collaborateurs, que ce soit les équipes de cuisine ou de salle, qui ont été impactées pendant cette fermeture. Nous avons quand même maintenu leur salaire et nous sommes restés en contact avec eux pendant ces 4 mois.
Et s'il y a un sujet quasi tabou ici, c'est celui de l'incendie et du pillage par les gilets jaunes. Vartan Mielieva, le chef, ose à peine évoquer le 16 mars.
Ça a été une journée compliquée, atypique, exceptionnelle pour des gens ordinaires. Mais maintenant, on regarde vers l'avenir. On a une salle qui est magnifique, qui a été rénovée à l'identique. On a retrouvé le Fouquet's. C'est les 120 ans cette année, on va de l'avant.
Dimanche, le Fouquet's recevra ses premiers clients pour le traditionnel brunch du 14 juillet. Certains ont réservé longtemps à l'avance et d'autres, explique Stéphane, ont soutenu les équipes à distance.
On a eu un nombre incalculable de messages, de courriels, de cartes postales de certains clients qui étaient partis en vacances, qui nous encourageaient dans la réouverture du Fouquet's, qui nous disaient qu'on leur manquait. tout comme eux nous manquaient également.
Des clients qui retrouveront les célèbres tables jadis occupées par Edith Piaf, Orson Welles ou Marcel Pagnol.
Et le point sur les enquêtes sur les pillages de la brasserie, le recel de ce pillage, l'incendie, tout ça est à retrouver sur franceinter.fr. Les collectifs de soutien aux sans-papiers, Gilets Noirs et La Chapelle Debout dénoncent des violences policières après l'évacuation hier après-midi du Panthéon. 37 personnes ont été interpellées. 700 manifestants ont occupé le monument pendant plusieurs heures pour réclamer la régularisation des sans-papiers. Quel patron pour le groupe Nice Matin? Xavier Niel, le patron de Free et actionnaire du Monde, ou Iskandar Safa, le propriétaire de Valeurs Actuelles? C'est le dilemme qui divise les salariés du groupe qui en sont actionnaires aux deux tiers. En Assemblée Générale hier, les journalistes se sont prononcés à la quasi-unanimité pour Xavier Niel. L'ensemble des salariés a voté pour Safa à 60%. Les journalistes se sont mis en grève dans la foulée. Pas de Nice, Var ou Monaco Matin en kiosque aujourd'hui.
À 7h35, Emmanuel Grabé, 20 départements toujours en crise en raison de la sécheresse. Le manque d'eau commence à avoir des conséquences visibles.
Oui, outre les restrictions d'utilisation de l'eau imposées par les préfectures dans plus de la moitié des départements, on peut observer quasiment à l'œil nu la baisse du niveau de certains cours ou certaines étendues d'eau. En Creuse, par exemple, l'étang des Landes à Lussac est en train de s'évaporer, laissant 240 espèces d'oiseaux qui nichent dans cette réserve naturelle le bec dans les bancs de sable qui s'agrandissent de jour en jour, Olivier Estran.
Oui, le niveau d'eau recule d'un centimètre par jour. Du coup, certains oiseaux sont en train de partir. Les hérons pourprés ou les marouettes ont déjà pris le large car il n'y a plus assez de marécages pour eux. C'est du jamais vu pour Sébastien Bure, le gardien de cette réserve naturelle.
On voit déjà ce qui se passe et nos espèces en jeu ont déserté. Pour tout ce qui est flore, invertébrés aquatiques, libellules, coléoptères, à l'évidence, c'est un épisode de sécheresse qui va être extrêmement impactant pour ces espèces-là qui avaient des populations fragiles sur le site.
Chaque semaine, un pisciculteur vient récupérer des poissons pour les mettre à l'abri dans ses bassins. Au rythme où vont les choses, l'étang des Landes, propriété du département, pourrait être à sec à la fin juillet. Philippe Moncou est le directeur de l'environnement pour la Creuse.
C'est une hypothèse qu'on ne peut absolument pas enlever. À ce rythme-là, plus la hauteur d'eau est faible, plus le réchauffement est fort, et plus l'évaporation est forte. On est vraiment dans un système qui s'accélère.
Soupir pour Sébastien Bure, car il n'y a pas que l'étang qui souffre.
Regardez la cime des chênes, regardez l'état des arbres autour de vous. Ça pose vraiment des questions. Vous avez des arbres ici, il y a fort à parier que dans les 10 ans qui viennent, ils seront morts. C'est tout le paysage creusois finalement qui va changer. Ce changement climatique, il est là, il est présent. Parce qu'on ne sait pas encore c'est à quelle vitesse les choses vont aller, mais à l'évidence, ça a l'air d'aller plus vite que ce qu'on envisageait.
Même si le temps se remet à la pluie, il faudra sans doute plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour que la réserve naturelle retrouve un visage normal.
Un reportage d'Olivier Estran de France Bleu Creuse pour France Inter. Et dans ce contexte de sécheresse, un homme de 29 ans a été condamné hier à 2 ans de prison ferme. Décision du tribunal d'Aix-en-Provence. Il était accusé d'avoir déclenché plusieurs feux dans la pinette de l'hôpital de Martigues. Il avait déjà été condamné l'été dernier pour des faits similaires.
On poursuit à l'étranger. Emmanuel Grabet, les révoltés soudanais rendent hommage aujourd'hui aux victimes du sit-in du 3 juin dernier.
Des dizaines de morts dans la capitale, Khartoum, 100 selon un collectif de médecins proches de la contestation. Tous réclamaient le départ des militaires qui se sont installés au pouvoir après qu'Omar el-Béchir en a été chassé. Une répression sanglante qui n'a entamé en rien la détermination de ceux qui aspirent à un régime démocratique pour le Soudan. Capucine Jaffé.
Ils occupaient les rues, la nuit, le jour, ils chantaient, dansaient, débattaient. Le sit-in de Khartoum est un événement très marquant pour Anne-Laure Mahé, chercheuse à l'Institut de Recherche de l'École Militaire.
À Khartoum, vous aviez assez peu d'endroits où se réunir toute la nuit ou à produire des discours politiques publics qui ne soient pas interrompus. Et donc en cela, la répression a vraiment été marquante. C'était une sorte d'utopie qui prenait place. Et surtout, c'est une répression qui intervient après plusieurs mois où le régime, en tout cas à Khartoum, avait laissé faire.
Et si la répression est très violente, la mobilisation résiste, selon Anne-Laure Mahé.
Les gens sont quand même restés mobilisés. Les comités révolutionnaires qui sont mis en place dans les quartiers étaient toujours là. Donc ça a certainement posé la question de changer les modes d'action. On fait face à une ville qui est encore plus quadrillée par l'appareil de sécurité qu'auparavant. Et donc, nécessairement, les manifestations sont plus limitées. Mais de façon générale, on a quand même vu que se maintenait quand même un degré de mobilisation étonnamment fort pour les circonstances.
Alors que Khartoum rêve de démocratie, le flou plane toujours autour de l'accord sur la transition démocratique entre les civils et les militaires.
Encore un membre de l'administration Trump qui prend le large, Alexander Costa, le secrétaire américain au travail, a démissionné hier. Il était mis en cause cause depuis plusieurs jours pour avoir été trop clément quand il était procureur de Floride avec le financier Jeffrey Epstein, poursuivi à l'époque pour exploitation sexuelle de mineurs et qui fait face depuis une semaine maintenant à de nouvelles accusations pour des faits similaires. Pendant ce temps, plusieurs membres du Congrès américain appellent à prendre des sanctions contre des responsables turcs après la livraison à Ankara hier d'une première cargaison de missiles russes S-400. Washington craint que ce marché permette aux Russes d'avoir accès à des informations de l'OTAN, dont la Turquie est membre, notamment des secrets technologiques du nouvel avion furtif américain F-35. Et puis il aura fallu 4-7 hier à Roger Federer pour se qualifier pour la finale de Wimbledon. Demain, le Suisse a éliminé Rafael Nadal 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. À suivre aujourd'hui la finale dames entre la Roumaine Simona Halep et Serena Williams. En cas de victoire, l'Américaine égalerait le record absolu de victoires en Grand Chelem, 24, détenu par l'Australienne Margaret Court depuis 1973.
Merci Emmanuel Grabé. On passe au temps de ce samedi.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Michel Golinski, on a une petite baisse des températures dans le nord-est aujourd'hui?
Oui, tout à fait, à midi, entre le nord de la Seine et les frontières suisses et allemandes. Il fera 22 cet après-midi à Lille, 24 à Nancy et Mulhouse, 25 degrés sur la Champagne, sous un ciel assez variable dans l'ensemble, et éventuellement même une ondée possible sur le relief. Mais plus à l'ouest et au sud, l'ambiance sera estivale, avec 27 degrés cet après-midi sur le bassin parisien et dans l'intérieur de la Bretagne, 28 à 30 du Val-de-Loire aux Charentes, sur le centre et en Rhône-Alpes, 31 à 33 degrés dans le sud-ouest, jusqu'à 35 autour de la Méditerranée, mais le Mistral et les rafales d'ouest sur la Corse seront assez forts, vers 80 km/h.